Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, cher Bodhima.
Qui renverse des chignons, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Genèse 49, verset 13. Zabulon, c'est pas le nom d'un détergent, hein. C'est le nom d'une des 12 tribus d'Israël, de Jacob. Et ici, Jacob a vécu devant Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il connaît son Dieu. Il arrive à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il veut bénir chacun de ses enfants. Vous savez que les parents devraient prendre le temps de bénir leurs enfants, de demander à Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dire « Viens ici, toi, je vais t'imposer les mains et je vais te transmettre une bénédiction. » On devrait le faire, les parents devraient le faire. Et ici donc, alors ici c'est au moment de sa mort, bien sûr qu'on devrait le faire. Hein, laisser des bénédictions et peut-être prophétiser sur les enfants avant de partir et leur donner une parole qui va en quelque sorte donner une belle couleur à leur futur, une parole à laquelle ils puissent s'accrocher peut-être quand il y aura des temps de doute, des temps qui seront difficiles. Et ici, c'est ce que fait Jacob. Jacob, ici, parle à Zabulon et il dit « Zabulon demeurera sur la côte des mers, il se tiendra sur la côte des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. » Ensuite, il est dit au verset 20 « Chez Hazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. » Alors, ça semble bizarre, parce que quand on lit ça, on dit, oh là, ça a pas l'air d'être très, très, ça a pas l'air de me parler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lire, la tradition orale. C'est que la tradition écrite, la parole de Dieu a énormément de poids, évidemment, chez les Juifs. Mais vous savez qu'au fur et à mesure que les événements se sont passés, au fur et à mesure où le peuple d'Israël a vécu la manifestation de son Dieu, eh bien, il y a des choses qui ont été écrites et qui se sont transmises fidèlement au point près, hein, on pourrait dire, de bouche à oreille. Et fidèlement, c'est arrivé jusqu'à nos jours. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont écrites, mais ce sont des choses qui sont fiables. Et également, il y a beaucoup de commentaires de rabbins et de sages que j'ai lus, et ça donne une lumière extraordinaire sur notamment ce texte. Et il y en a un que je voudrais vous lire, qui se trouve dans le Chumash, et voilà ce qu'ils disent concernant le verset 30. Le patriarche, donc Jacob, attribue ses bénédictions sur chaque enfant selon son rôle particulier dans l'harmonie des 12 tribus. Bien qu'Issachar était plus âgé, Jacob a établi Zabulon en premier, car, note Rashi, qui est un rabbin, Issachar pouvait étudier la Torah grâce à Zabulon, qui s'est engagé dans le commerce pour soutenir financièrement Issachar. Vous le saviez, ça? Alors, un autre rabbin ajoute Sforno. Sforno avance que personne ne peut s'engager dans l'étude de la Torah sans une aide matérielle. Comme disent les sages, il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est pour cela que la Torah ordonne au peuple de faire des dons aux sacrificateurs et aux lévites qui se consacrent à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Alors là, on n'est pas en train, évidemment qu'on pourrait dire, oui, mais là on est en train de parler de toi, notamment pasteur, parce que tu es en train d'étudier la parole et tu es en train de l'enseigner. Bon oui, c'est vrai, je suis déjà rémunéré par cette église, donc ça n'est pas de moi que l'on parle. C'est en général, c'est ce qu'il est dit, pour que quelqu'un puisse passer du temps à étudier la Bible ou faire l'œuvre qui se rattache à tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire comme les Lévites, eux, ils s'occupaient du temple, des ustensiles, ils s'occupaient de tout le côté pratique du temple. Hein. Donc il y a ceux, les sacrificateurs, qui étaient directement dédiés à l'étude de la Torah et au sacrifice, qui rentraient dans la présence de Dieu, mais autour d'eux, il y avait aussi les Lévites. Ici, ce qui est intéressant, c'est parce que je continue à entendre cette phrase de Rick Renner, qu'il a prononcée à la conférence, et quand, c'est tout simplement ce qu'il a dit, l'argent doit circuler. Et ici, on voit une des raisons pour laquelle l'argent doit circuler, c'est que pour que la parole de Dieu soit annoncée, il faut qu'il y en ait qui apporte une aide matérielle. Alors évidemment, on ne parle pas, hein, on parle pas de la dîme, ça tout le monde doit la donner, mais on va voir qu'il y a aussi des gens qui sont loin par Dieu pour gagner de l'argent. Et on peut, soit si on sait dans notre cœur qu'on est appelé à gagner de l'argent, il y a des gens, ils savent, ils disent, moi je suis né pour gagner de l'argent, je suis né pour apporter de grosses finances dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui le savent, comme il y en a qui savent qu'ils sont nés pour être président. Il y en a d'autres qui sont nés pour être pasteur. Il y en a d'autres qui disent, moi je sais, je chante plus tard, je suis né pour chanter. Mais il y en a d'autres qui sont nés pour financer la promotion du royaume de Dieu. Et on va voir que dans tout ce que Dieu a fait, l'argent a toujours été là. Et nous chrétiens, on ne peut pas mépriser ces choses-là. On ne peut pas dire, oh, moi, en donnant ma dîme, c'est complètement insignifiant. Parce que vous donnez votre dîme, on a pu bénir quelqu'un qui est à l'île Maurice la semaine dernière. Parce que vous donnez votre dîme, on a soutenu financièrement pendant des années le groupe Shekinah Glory. Parce que vous donnez votre dîme, on a pu envoyer de l'argent en Israël. Ne pensez pas que les choses de Dieu se font. Le royaume de Dieu émerge sur terre parce que la notion de l'argent est complètement en dehors de l'évangile. L'évangile prêché a tout à voir avec le fait que nous le financions. Maintenant, concernant la tribu d'Azer, qu'est-ce qu'il est dit au verset 20? Je vais vous lire, donc, je vous le relis. « Chez Azer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. » Je vous lis les commentaires que j'ai trouvés. « Le territoire d'Azer sera si riche en plantations d'oliviers qu'il sera semblable à une fontaine de laquelle coule l'huile. Et il fournira les mets exquis d'un roi. » Ces productions riches seront dignes des tables royales et seront recherchées par les rois. Azer était le second fils de Zilpa. Jacob a béni le plus jeune fils d'abord, parce qu'il a béni, il a béni aussi les autres, mais dans l'ordre, hein, il aurait dû bénir le plus âgé d'abord. Mais il a béni le plus jeune pour suggérer que Gad, donc il y a un autre fils, serait libre de se consacrer à la défense du pays, car Azer mettrait ses riches productions à la disposition de Gad quand celui-ci en aurait besoin. Donc on voit qu'ici, il est prophétisé, il y en a un qui va s'engager dans le commerce. Si tu t'engages dans le commerce, peut-être que tu veux savoir pourquoi tu le fais. Et on n'a pas à s'excuser de gagner de l'argent. On n'a pas à s'excuser. Mais ici, il y en a un autre qui sera rendu riche par une onction de Dieu pour financer la défense du pays. Regardez avec moi dans Exode chapitre 35. On va continuer. Répète après moi, l'argent doit circuler. Répète après moi, quand l'argent vient jusqu'à moi, il ne peut pas s'arrêter à moi. Exode chapitre 35 verset 5. Alors ici, c'est le tabernacle qui va être construit. Et voici ce que Moïse dit au peuple. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel. De l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, etc., des pierres, etc. Verset 21, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 29, tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était généreux pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, on voit que au moment de d'envoyer les enfants de Jacob vers leur destinée, Jacob a pris le temps de les bénir, de prophétiser. Et il s'est trouvé qu'il y en avait qui allaient gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Pour financer le plan de Dieu. Alors on pourrait dire, oui, mais la défense du pays, c'était financer le plan de Dieu. Bien sûr, parce que le pays a une destinée prophétique. Ça n'est pas n'importe quel pays. Donc oui, il fallait de l'argent pour défendre, pour envoyer des hommes, pour payer des hommes, pour acheter des armes, pour pourvoir à leurs besoins pendant qu'ils seraient à la guerre, afin que s'ils avaient peut-être un champ, eh bien ils puissent faire vivre leur famille. Mais on voit aussi que Dieu a fait appel aux offrandes afin que sa sacrificature, que tout le service dans le tabernacle ne manque de rien. Et ici, d'une manière tout à fait concrète, on voit que c'est ce que Moïse fait. Maintenant, vous voulez vous poser les questions, pourquoi les Juifs, beaucoup de Juifs gagnent de l'argent? Je vais vous dire, les Juifs gagnent de l'argent, un, parce qu'ils savent qu'ils ont une alliance avec Dieu, deux, parce qu'ils savent que faire. Le troisième temple est sur le point d'être reconstruit, et vous savez que Dieu a du goût. Donc, tout est en or, avec beaucoup de matières qui sont précieuses, mais déjà, tout est prêt. Tous les instruments sont prêts, les plans sont tirés, et dès que le feu vert du Seigneur est donné, en un rien de temps, tout sera assemblé, et le plan de Dieu va continuer. Regardez aussi dans 1 Chronique. Alors, 1 Chronique, chapitre 29. Alors, nous avons vu que l'Éternel dit qu'il va falloir de l'argent pour construire le tabernacle. Alors, l'argent que les Hébreux ont donné pour la construction du tabernacle, pour les ustensiles, pour payer les sacrificateurs et pour payer les Lévites, eh bien, tout cet argent, c'était celui qu'ils avaient récupéré d'Égypte. Et cet argent c'était normal qu'ils le récupèrent à la fin, vous rappelez, quand le Seigneur a dit, avant de traverser la mer Rouge, il va falloir que vous demandiez l'argent et l'or aux Égyptiens. Bon, parce que Dieu savait qu'ils en auraient besoin pour la construction du tabernacle, et c'est aussi parce que c'était leur salaire pour avoir été sous-payé pendant 400 ans en Égypte. Et le Seigneur disait, ça va être le moment de régler les comptes, de tirer un trait, de marquer total, voici ce qui est dû. Alors, et ils sont sortis avec cet argent. Au moment où Dieu en a eu besoin, ils ont pu le donner. Mais ensuite, de la construction d'un tabernacle, ils sont passés à la construction du premier temple. Et c'est ici dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 2. Et voici ce que dit David. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être de bronze, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Voilà, ça, c'était les économies qu'il avait faites. C'était les préparatifs qu'il avait faites pour emménager dans un lieu plus grand. Hein? Mais c'est pas tout. Il dit de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu. Et là, c'est David. David dit non seulement, eh bien, à un niveau national, nous avons fait des économies. En tant que groupe, nous avons mis de l'argent de côté pour pouvoir progresser dans le plan de Dieu. Et il dit, mais moi, personnellement, il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, pour l'or ce qui doit être d'or et d'argent pour ce qui doit être d'argent, ainsi que pour les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers l'Éternel? Et il est dit, les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. Et on sait qu'ils ont doublé la mise. En quelque sorte, on voit que non seulement David a préparé le pays à progresser dans le plan de Dieu, mais également lui-même l'a fait. Et ensuite, il a fait appel à qui ça ? À tous ses leaders. Il y a une petite anecdote, et c'est vrai que quand on est leader ou quand on est ancien dans le corps de Christ, quand on a expérimenté la présence de Dieu, on doit prendre au sérieux les progrès de la maison de Dieu. On ne peut pas rester indifférent devant les plans que Dieu a pour son Église. Encore une fois, l'argent doit circuler. Et non seulement qu'il circule, mais qu'il circule dans la bonne direction. Et ce que Dieu veut, c'est que l'argent circule à travers chaque personne qui a expérimenté Dieu et qui peut dire « dans mon attachement pour la maison de Dieu ». Et tout à l'heure, je ne vous ai pas lu les versets 27 et 28, quand tout le peuple a apporté les offrandes à l'Éternel pour la construction du temple, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui apparaît dans les commentaires des rabbins, c'est que les leaders, les princes d'Israël, les chefs de tribus avaient attendu que le peuple ait donné. Et quand le peuple a tout donné, ils se sont dit, eh bien, on va ajouter nous ce qui manque. Ce qui veut dire qu'ils ont donné moins que ce qu'ils auraient pu donner. Et les rabbins disent qu'à vrai dire, le mot « leader » qui est écrit dans le texte de Exode 35, au verset 27 et 28, pardon, a deux fautes. Il y a deux petites lettres qui manquent, ce sont des « yud ». Et ils disent, ces deux lettres manquent, ce qui veut dire que le nom de « leader » n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait preuve de paresse. Ils ont attendu que tout le peuple donne, et ensuite, quand il y a une bonne quantité, il dit, ok, nous maintenant, on va donner ce qui manque. Et à cause de cela, Dieu a permis que leur titre soit modifié. Mais, on voit dans Nombre chapitre 7, qu'ils ont rectifié, ce sont ceux qui ont donné le plus. Vous croyez que Dieu est capable de modifier quelque chose de notre vie en fonction de ce que l'on fait pour lui ou pas? Absolument. Alors là, on voit que quand il s'est agi de la construction du tabernacle, Dieu a fait appel à des offrandes. Quand il s'est agi de la construction du temple, Dieu également a fait appel à des offrandes. Regardez dans Deux Rois, et vous connaissez cela, Deux Rois, il faut savoir que ce qui se passe dans le royaume de Dieu a toujours, toujours, toujours été lié à de l'argent. Toujours été lié à de l'argent. Dieu n'a jamais fait les choses à la hauteur qu'il voulait uniquement à coup de miracle. Il a toujours fait en orientant, en disposant le cœur des gens vers la générosité. Deux Rois, on connaît tous ce passage-là, au chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ici, on voit que Dieu a utilisé une femme pour tout simplement honorer, pour donner ce qui manquait à un prophète, afin que le prophète puisse continuer à faire son travail dans les meilleures conditions. Vous savez que Dieu a un certain niveau, il a un certain standard, un certain standing de vie pour lui et un certain standing de vie pour les siens. Il a un certain standing pour sa maison et il a un certain standing pour son peuple tout entier. Encore une fois, il faut que l'argent circule pour que nous progressions dans le plan de Dieu. On est dans des temps qui sont les plus critiques et l'Église doit avoir une voix. Je vais vous dire franchement qu'une Église qui progresse à la vitesse que Dieu a, que Dieu a prévu, c'est une Église, qu'on soit d'accord ou pas avec elle dans la ville, on regarde ce qui se passe. Une Église qui a tout ce qu'il lui faut, je vous garantis, c'est une Église qui progresse, c'est une Église qui attire l'attention, c'est une Église qui aiguise la curiosité, et c'est une Église, je vais vous dire honnêtement, dans laquelle il y a la présence de Dieu. Regardez également avec moi dans Esdras, page 540 pour ceux qui ont ma Bible. Esdras, juste après deux chroniques, un chronique, deux chroniques, Esdras et puis Néhémie après. Alors, donc le premier temple a été construit, mais parce que le peuple juif n'a pas obéi au commandement de Dieu, ce qui avait été prévu est arrivé, ils ont tous été déportés à Babylone. Mais à Babylone, le temps, il était dit que pendant 70 ans, ils auraient été déportés. À la fin des 70 ans, Dieu a éveillé l'esprit d'un roi, et d'un roi, c'était un roi païen, et c'était un roi qui n'était pas connu pour les bonnes choses qu'il faisait. Mais l'esprit de Dieu est venu, et il était nécessaire que le service du temple reprenne. Il était nécessaire de reconstruire le temple, il était nécessaire de rebâtir la ville, il était nécessaire à la montre de Dieu que les événements de Dieu se produisent au moment qu'il avait lui-même choisi. Donc pour que les événements de Dieu se passent, il faut que tout soit en place. Ce qui veut dire que s'il faut agrandir, il faut agrandir. S'il faut construire, il faut construire. S'il faut élargir, il faut élargir. Mais quand Dieu a dit « on va de l'avant », on va de l'avant. Mais pour cela, que s'est-il passé? Regardez au chapitre 1 d'Esdras, verset 1. « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé. » Waouh, un païen qui dit ça. Imaginez Monsieur Sarkozy qui se réveille après une visitation de Dieu et qui dit « L'Éternel m'a chargé de favoriser la construction des églises et des synagogues. Allez-y, tout ce que vous avez besoin, je vais vous le donner. » C'est ce qui s'est passé ici. Et ensuite, il dit « Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il l'est dit plusieurs fois parce qu'il ne s'agit pas du Dieu qui habite en Inde. Il s'agit du Dieu qui est à Jérusalem. de verset 4, de tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens, de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Répétez après moi, pour que le plan de Dieu progresse, il faut que l'argent circule. Regardez dans Malachie chapitre 3. Vous savez, quand le diable a réussi à faire croire aux chrétiens que l'argent était un sujet tabou, quand il a réussi à leur faire croire que Dieu les voulait pauvres, devinez ce qu'il visait. L'empêchement du plan de Dieu. C'était pas autre chose. C'était, pour lui, ça n'était pas suffisant que les gens vivent dans le manque. Ça n'était pas suffisant que les gens ne puissent pas donner la meilleure école à leurs enfants. Ça n'était pas suffisant que les gens mangent des pâtes avec un petit filet d'huile d'olive pendant tout le mois. C'était pas ça qui l'intéressait. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Mais ce qu'il voulait, c'était que le plan de Dieu soit empêché et que les prophéties de Dieu ne se réalisent pas. Parce que Dieu, quand il a parlé, et quand il a annoncé ce qui allait se passer, eh bien, ça devient, il faut que ça se passe dans des temps précis. Et pour que les prophéties de Dieu se réalisent, il faut que tout soit en place. Est-ce que vous comprenez qu'il est important que vous et moi prospérions comme Dieu le veut? Surtout si on est appelé dans le commerce. Malachie chapitre 3, et il dit, verset 8, un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez. Une autre version dit, et vous me volez la nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Et ensuite il dit, et vous verrez si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, et la bénédiction en abondance. Et une autre version dit, et vous verrez si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, afin qu'il n'y ait plus suffisamment de place chez vous pour la contenir. Là, c'est ce que je veux dire, bénédiction, hein. Mais ici, ce que l'on voit, c'est encore une fois, Dieu est concerné par le fait qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Ça veut dire, il est concerné par le fait que dans la maison de Dieu, la parole de Dieu soit annoncée avec abondance. C'est-à-dire, bien sûr, nous on est dans une église qui est bénie de Dieu, parce que vous avez un pasteur qui a tout son temps, littéralement toute sa vie, consacré à l'œuvre de Dieu. Mais pour être honnête avec vous, pour être encore plus consacré, je vais vous dire ce qu'il me faudrait. Il me faudrait une secrétaire en plus. Et ensuite, je vais vous dire, à un moment ou à un autre, à payer quelqu'un pour faire la louange continuellement pour que ça s'améliore. Et puis ensuite, il va falloir qu'on paye quelqu'un pour faire le ménage. Et ensuite, il faudra qu'on paye en plus d'autres personnes pour enseigner la parole de Dieu dans les groupes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, afin que dans la maison de l'Éternel, il y ait l'abondance de la parole de Dieu. Et c'est vraiment une malédiction quand la parole de Dieu est donnée au compte-gouttes, ou bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour la donner, ou alors parce que les personnes n'ont pas le temps d'étudier la parole. Est-ce que vous appréciez d'être nourri quand vous venez au culte? Mais vous comprenez à quoi servent les dîmes et les offrandes? On peut voir qu'il y a un lien direct entre la prédication de l'évangile, la réalisation des prophéties, l'avancement du plan de Dieu et les finances. Et il est temps que nous, chrétiens, on n'ait pas honte de notre participation d'une manière matérielle et que l'on sache, pour notamment certains d'entre nous, ils sont destinés à gagner de l'argent. Et je vais vous dire, si vous savez que vous êtes appelés à gagner de l'argent, arrangez-vous pour décrocher tous les diplômes que vous voulez, arrangez-vous pour mettre votre foi en rendez-vous divin avec des gens qui vont vous former dans les affaires, gagnez de l'argent et investissez dans le royaume de Dieu. Et je peux vous garantir, vous en aurez largement pour que vous et votre famille entière vivent dans la prospérité. Parce que Dieu n'a jamais demandé qu'on donne au point de se dépouiller. Ça n'est pas notre Dieu. Il y a un silence dans cette église charismatique qui n'est pas banal. Vous comprenez pourquoi on ne se sert pas, il faut que les dîmes, il est dit que les dîmes arrivent dans la maison du trésor, c'est-à-dire là où on a les trésors de la parole de Dieu, là où il y a les richesses de la parole de Dieu qui sont dressées devant nous sur une table que le Seigneur a préparée. Et c'est ce qu'il y a sur cette table qui va nous permettre de rester sereins vis-à-vis de nos ennemis le jour où nous en avons. C'est la raison pour laquelle... Waouh, excusez-moi, mais c'est bon, hein. Ah oui, je prêche bien ce soir. J'espère que demain je vais vous faire aussi bien parce que... Gloire à Dieu, Saint béni. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas n'importe quoi avec nos dîmes. Nos dîmes, on les envoie pas à tel serviteur de Dieu pour qu'il avec nos dîmes, on les amène dans la maison de Dieu où on est nourri. Et levez la télévision, faites-le, mais ça fait partie de vos offrandes, en plus de vos dîmes, dans la maison de l'Éternel, à travers la parole donnée lors des cultes, lors des réunions de prière. Vous ne vous rendez même pas compte ce que vous recevez le jeudi soir à la réunion de prière. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous savez qu'il faut du temps pour cela. Et à vrai dire, si Bulle avait plus de temps, Dieu sait ce qui se passerait. Je vais vous dire, il est temps que l'Église, en général, accepte de penser comme Dieu. Regardez dans Matthieu 2. Alors, certains peuvent dire, ouais, mais tu sais, ça, c'est uniquement vous qui prêchez la prospérité, vous prêchez l'argent. Tout ce que j'ai lu, là, c'est dans la Bible. C'est pas dans le Nice-Matin, c'est même pas dans le journal La Croix, c'est pas dans le Pèlerin, c'est pas dans le Figaro, Paris Match et Paris Catch et tout ce que tu veux, c'est dans la Bible. Et Timothée nous dit, Paul dit à Timothée que ce qui est écrit est inspiré, ça contient le souffle de Dieu. Vous croyez que Dieu est indifférent à cela? Regardez, dites-moi, Dieu se finance, mais il se finance à travers son peuple. D'abord, il peut toucher le cœur des inconvertis pour faire des offrandes pour l'évangile, etc. Mais d'abord, il va voir son peuple. D'abord, il parle au cœur de son peuple. Regardez dans Matthieu, chapitre 2, verset 11. Il est parlé des rois mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur compte et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est que le Seigneur a su s'arranger parce qu'il connaissait le cœur d'Hérode. Et il savait très bien qu'Hérode allait se débarrasser de tous les enfants de moins de 2 ans. Il savait que Joseph, Marie et l'enfant allaient devoir se réfugier en Égypte, que peut-être que Joseph ne pourrait pas faire vivre sa famille comme il aurait dû. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, il a envoyé des cœurs qui étaient disposés, des rois qui allaient financer le voyage de Jésus, qui allaient financer les études de Jésus, qui allaient financer la famille de Jésus. Et ils n'ont manqué de rien. Regardez également dans Luc chapitre 8. Alors, certains disent, oh ben tu sais, moi je suis pas appelé à gagner de l'argent, moi je suis appelé à être comptable. Bien. Alors je vais te dire, ça fait partie. Ça va avec la gestion. Luc chapitre 8, regardez ce qu'il est dit, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Est-ce que Jésus a fait beaucoup de surplace? Il a toujours bougé. Dites-moi, est-ce que l'achat ou la location d'un âne, ça se payait à l'époque ou pas? Est-ce que la nourriture était gratuite à l'époque ou pas? Ok. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si Jésus avait vécu aujourd'hui, qu'aurait-il fait? Il aurait pris l'avion, il aurait eu de bonnes voitures, il aurait toujours eu l'argent pour payer les autoroutes. Il aurait utilisé les sites internet, il aurait utilisé des caméras de télévision, il aurait utilisé toute la technologie de pointe afin de prêcher la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelait Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Vous savez que nulle part il est écrit c'était une prostituée. Hein. Jeanne, femme de Chusa, intendant, c'était le trésorier, le comptable, le ministre des Finances d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. C'est-à-dire que ces personnes mettaient leurs biens à la disposition de Jésus et des 12. Et 12 hommes. Il n'y en a pas un qui va aller à cheval et les 12 autres à pied. Il faut qu'ils aillent tous à la même allure. C'est-à-dire tous en première classe. C'est comme ça que ça marche. Hein. S'il y en a un qui va dans un hôtel 4 étoiles, tous vont dans un hôtel 4 étoiles. Tu dis pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu voyages beaucoup, il te faut un confort. Ça fait partie de ce que ton corps demande. Ça n'a rien à voir avec 2, 3, 4, 5 étoiles. Non, ça a à voir avec le confort. Ici, c'est ce que l'on voit. Dieu a fait en sorte que Jésus soit assisté. Il avait touché le cœur. Et ici, c'est notamment deux femmes. Vous vous rendez compte que leurs noms sont passés, ont traversé les siècles à cause de leur générosité. Pas à cause de leur prédication, pas à cause de leur beauté, on ne sait même pas quelle tête elles avaient. Suzanne, c'est la première fois qu'on en entend parler, c'est la dernière fois qu'on en entend parler. On ne sait rien d'elle, mais on connaît sa générosité. Elle a fait progresser le plan de Dieu. Hey, tu peux lui dire merci quand tu la vois au ciel. Galates chapitre 6, parce que peut-être que tu fais partie de ces semences. Galates chapitre 6, ça vous parle ou ça ne vous parle pas là? Hein? Galates chapitre 6, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, ici, il nous est dit, c'est le même principe. Et encore une fois, je ne parle pas de moi. Vous réalisez cela? Je parle pour n'importe quel pasteur qui a n'importe quelle vision à cœur. Moi, j'ai un salaire dans cette église. Je parle même pas de moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de faire beaucoup mieux dans le sens où on a besoin de s'agrandir, on a besoin d'embaucher d'autres personnes, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de soutenir davantage de missionnaires, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais ici, il nous est dit que celui qui est enseigné va partager ses biens avec celui qui l'enseigne, c'est-à-dire tu donnes à celui qui t'enseigne, tu donnes pas à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu allais manger au restaurant et puis que tu dises ça c'était bon, je suis bien nourri et je vais aller payer la repasseuse du coin. Ça n'aurait pas de sens cette histoire-là. Et pourtant, dans l'Église, quelquefois, c'est ce que l'on voit. Ici, Paul demandait à ceux qui recevaient d'un ministère de partager leurs ressources avec lui pour que cette personne puisse se consacrer à la saine doctrine, contrairement aux détracteurs qui enseignaient de fausses doctrines dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines dans le corps de Christ parce qu'ils n'ont pas suffisamment le temps d'étudier la parole de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut réfléchir à cela? C'est sérieux, non? Bien, un verset encore dans Jacques. C'est ok si on prend notre temps de vérifier tous ces versets-là. Vraiment, je ne peux pas vous dire comme ce sujet tient au cœur de l'Éternel. Pensez-y depuis combien de temps je prêche là-dessus. Avant la conférence, j'avais déjà commencé à prêcher sur les biens matériels. Le Seigneur est en train de dire, je veux vous prospérer, je veux vous prospérer, je veux vous prospérer. Je veux me glorifier à travers votre prospérité. Je veux que vous réussissiez. Je veux que vous ayez beaucoup plus que ce que vous avez maintenant. Parce que mon plan est en train de progresser et on doit être à l'heure dans tout ce que l'on fait. Jacques chapitre 5, alors ce passage, il est impressionnant. Ici, À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Une autre version dit, vous avez amassé des trésors pour ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Alors ce passage, on pourrait dire, mais dis donc, pasteur, c'est un petit peu, waouh, Dieu est contre les riches. J'espère que vous n'en êtes pas à ce stade de la réflexion, parce que si c'est votre conclusion, elle est totalement contraire à ce que les Écritures nous disent, la Bible nous dit, que Dieu nous donne même la puissance de prospérer afin de confirmer son alliance. On l'a vu ça la dernière fois, d'accord? Donc Dieu n'a rien contre les riches, Dieu aime les riches, mais vous savez ce qu'il dit ici? Il dit, vous les riches, il dit, vos vêtements sont mités. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés. Ce qui veut dire, ils ont mal utilisé leur argent. Ils ont fait un mauvais placement. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu que quand on donne de l'argent pour le royaume de Dieu, eh bien, il y a un compte qui est ouvert au ciel et là, l'argent est préservé. L'argent continue à rapporter à celui qui donne quand celui-ci investit dans le royaume de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas de se démunir, mais il s'agit au moins de donner nos dîmes et ensuite de faire des offrandes selon que le Saint-Esprit nous le montre. Mais remarquez, c'est beaucoup plus qu'ici. Il nous est dit qu'ici, il y a des moissonneurs qui ont crié devant l'Éternel et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles de Dieu qui entend. Mais qui sont ces moissonneurs? Qui sont ces moissonneurs? Et Dieu entend le cri des moissonneurs parce que dans Lévitique 19, verset 13, il nous est dit de ne pas remettre au lendemain la paye du salaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un a travaillé et tu t'es entendu pour qu'il soit payé à la journée, il dit dès qu'il a fini, n'attends pas le lendemain, le soir même, donne-lui son salaire. C'est-à-dire fais les choses justes. Il est dit ici, les moissonneurs sont qui? Les moissonneurs, ce sont tous eux. Et qui disent, Seigneur, si seulement j'avais des caméras de télévision. Seigneur, si je pouvais envoyer des évangélistes dans la moisson. Seigneur, si au lieu de passer mon temps à répondre aux courriers, j'avais 3 secrétaires qui puissent le faire à ma place. Seigneur, si seulement j'avais un bâtiment plus grand. Si je pouvais payer quelqu'un qui s'occupe des enfants. Si je pouvais acheter un bâtiment pour les jeunes. Vous croyez pas que Dieu entend le cri de tous ces pasteurs qui, dans les derniers jours, moi je vais vous dire, j'en connais des tas de pasteurs et j'en suis un de ceux-là, qui fait monter à Dieu et Dieu se tourne vers ceux qu'il a enrichis et dit, toi tu vis dans la volupté, toi tu vis luxe, il n'y a pas de problème à vivre dans les choses qui sont luxueuses. Dans 1 Timothée, verset, chapitre 6, Paul dit, il dit, mais Dieu veut tout vous donner en abondance pour que vous en profitiez, pour que vous en jouissiez. Dieu ne veut pas vous priver. Il dit seulement, assurez-vous que vous, quoi ces richesses sont réservées. Parce qu'il y a le cri des moissonneurs. Et dans les derniers jours, je peux vous garantir, les pasteurs, les évangélistes, il y a combien d'évangélistes qui ne peuvent pas partir pendant 1 mois pour faire l'œuvre du ministère, parce que le dimanche soir, ils sont, après avoir prêché tout le week-end, ils sont obligés de revenir chez eux afin de reprendre leur travail le lundi. Pourquoi? Parce que personne n'est en train de les soutenir. Moi, je vais vous dire, il faut que l'Église de Dieu se bouge arrête de plaisanter avec l'argent. Que l'église de Dieu, que ceux qui sont loin pour gagner de l'argent, gagnent de l'argent, qu'il n'ait pas porte ouverte et qu'il déverse cela dans le royaume de Dieu pour que l'évangile soit annoncé. Un dernier verset dans Romains. Quelqu'un peut me dire, pasteur, prêche. Oui. Romains chapitre 12. Combien c'est sérieux pour Dieu. Combien c'est sérieux pour Dieu. Je vais vous dire, si les jeunes étaient sérieux avec Dieu, ils gagneraient plus d'argent que ce qu'ils en ont maintenant. Seulement, ça fait plaisir de gagner de l'argent, mais quand on ne veut pas prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, et qu'on s'occupe de tout, sauf d'entendre ce que Dieu l'Éternel dit, on risque pas d'en gagner de l'argent. On va juste retenir cette phrase, gagner de l'argent. Mais on n'a pas compris comment Dieu nous le donne. Ah, c'était le moment pour que on continue, prêche pasteur. L'on a à cœur de faire. Je vais vous dire, au point où j'en suis, j'aurais dû imprimer ma centaine de bouquins. Vous savez que je veux imprimer 100 livres. Mais j'aurais dû le faire depuis le temps. C'est 5 ans, je crois, qu'on a commencé cette maison d'édition. 5 ans, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Combien d'églises j'aurais dû commencer si j'avais eu plus d'argent? Combien de gens j'aurais pu dire, tiens, j'aurais une église dans cette ville? Je connais des endroits en France où on pourrait commencer des églises aujourd'hui. On n'a pas l'argent, donc on attendra. Verset 6, « Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat c'est le service, c'est l'aide, le service matériel, hein, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, que celui qui préside avec empressement, c'est le pasteur ça, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Ici, il est question de dons particuliers que Dieu a donné a fait dans le corps de Christ. Alors c'est vrai, il est dit que celui qui prophétise, on prophétise, à vrai dire, tout le monde devrait pouvoir donner une parole d'encouragement, d'exhortation, de réconfort. Ça, c'est la simple prophétie. Tout le monde devrait pouvoir en donner une. Ici, il est dit que celui qui le donne, tout le monde devrait donner. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il est dit que celui qui exhorte, celui qui enseigne, mais la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout le monde devrait enseigner à son voisin quelque chose. Mais il n'est pas parlé de cela ici. Ici, il est parlé de dons spécifiques. Il y a des gens qui ont, vous avez remarqué ce qu'il est dit? Que celui qui donne. Il y a des gens qui sont loin pour donner. C'est un don! C'est un don particulier! Comme le fait d'être pasteur, vous réalisez que, évidemment qu'on devrait tous prendre soin les uns des autres. Mais c'est un don! Humainement, on ne peut pas l'inventer ce truc-là. Il y a des gens dans le corps de Christ, tout comme la tribu de Zabulon, tout comme la tribu d'Azer, qui sont loin pour aller dans le commerce. J'en connais. Je peux vous dire, ils peuvent passer à côté d'une affaire, tout le monde va dire, non. Eux, ils passent à côté, l'Esprit de Dieu dit, achète. Ils achètent, ping! La main de Dieu vient, change la situation. Ils se forment de l'or en bas. Il y a des gens qui donnent des millions d'euros à l'évangile. Vous savez ce que ça veut dire? Je parle pas de 100 euros une fois par semaine. Exact. Des millions d'euros à l'évangile. Moi, ma question est, je vais vous dire, moi je prie pour que Dieu envoie des hommes et des femmes d'affaires dans cette église. Écoutez-moi bien, je le redis encore aux jeunes, parce que cette église a investi dans les jeunes. Et je m'attends à ce que quand les jeunes gagnent de l'argent, ils pensent à cette église, d'accord? On va tout de suite parler de la loi de semer et de récolter, d'accord? C'est vrai ou c'est pas ça? C'est pas tout de les avoir élevés dans le Seigneur, de les avoir aidés à réussir dans la vie pour qu'ensuite, Alors, si vous allez dans une autre église locale à l'autre bout de la France, il y a intérêt que ce soit à l'autre bout de la France, hein, pas à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de la France, ben dans ces cas-là, vous enverrez des offrandes ici. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. La Bible dit, tu partages tes biens avec celui qui t'a enseigné. On est un paquet ici à vous avoir enseigné, hein. Alors, ce que l'on veut, c'est prier et dire, Seigneur, déjà, est-ce que moi, Seigneur, tu veux que je sois quel don de donner? Vous savez, ils pensent pas pareil. Ceux qui ont le don de donner, ils pensent pas du tout pareil. D'abord, ils s'en moquent si vous leur dites merci ou pas. Parce qu'ils donnent pas pour avoir un merci. Alors que les autres, ils donnent, mais oh, Véro, il a pris le chèque, il m'a même pas dit merci. Et pendant une semaine, là, ça va leur rester. Mais ceux qui sont loin pour donner, ils sont contents d'avoir donné. Et en plus, ils oublient le truc. Ils s'en moquent. Ils ont fait la volonté de Dieu. Hop, on passe à autre chose. Il y a une autre particularité. Ce sont des gens qui sont toujours en train de se demander. Alors que les autres se posent pas la question. Mais eux sont toujours en train de se demander si les factures sont payées. Même si c'est pas eux les trésoriers, les comptables ou quoi. Ils sont toujours concernés. Moi, je vous le dis parce que j'en connais des gens qui sont loin pour ça. Ils sont toujours en train de dire, dis-moi, ça va? Est-ce que vous avez suffisamment? Est-ce que toi, pasteur, tu vas bien? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Alors que le chrétien a les mêmes moyens. Il rentre à l'église, déjà il râle parce que il y a pas la température qu'il veut, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ensuite, la musique, elle est trop forte, elle est pas assez forte. Ensuite, le pasteur, oh là là, il voit un peu, vous pouvez pas s'habiller autrement, j'aime pas. Ensuite, les enfants. Comment ça, les enfants n'ont pas encore fini, mais oui, ils sont là. Celui qui a ce don de donner, il a aussi celui de recevoir. Il est toujours en train de se dire, je me demande, est-ce qu'on pourrait pas améliorer cette sono-là? Je me demande combien ça vaut, ces enceintes-là, ces micros, ça vaut combien? C'est rien. Allez, d'ici la fin du mois, je les achète, et voilà. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est un don! Alors, ce qu'on veut faire, c'est dire, Seigneur, est-ce que j'ai ce don, moi? Si j'ai ce don, je vais être sérieux avec Dieu. Et puis ensuite, Seigneur, je vais prier pour qu'il y en a qui ont ce don et qui viennent dans mon église. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas des riches dans leur église parce qu'ils pensent qu'ils sont hautains. Et ceux qui sont vraiment riches avec la pensée de Christ, ils veulent toujours améliorer les choses. C'est jamais assez bien pour eux. Donc, ils vont faire des réflexions. Ils vont être toujours en train d'amener des challenges, des défis. Il faut qu'on ait plus grand, il faut qu'on fasse tel projet. Il faut qu'on achète plus, il faut qu'on achète mieux. Il faut qu'on ait encore une meilleure technologie. Donc, c'est vrai que tous les autres à côté, ça les rend un peu nerveux. Ils sont là, ah là là, ils m'énervent. C'est dans leur fibre. Ça va faire du bien à certains de se reconnaître parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont pas si marteaux ou si casse-pieds que ça. C'est dans leur fibre. Ouais, merci, je fais. Un dernier verset, vous permettez que je vous donne un dernier verset? Bon, tant pis, je vous le donne quand même, vous pouvez dormir si vous voulez, je vous le donne. 1 Timothée, chapitre 6. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de répondre aux cris de ses ouvriers. Il est en train de répondre aux cris de ses ouvriers là, qui dit, Seigneur, il faut que ça change ici. Je n'en peux plus, Seigneur, parce que ça n'est pas un manque d'onction. On n'a pas un manque d'onction. Certains, oui, c'est pas notre cas. On n'a pas un manque de vision. On n'a pas un manque de gens qui sont bien disposés. Pas nous, en tout cas. Peut-être dans certaines églises, pas nous, on n'a pas. On a un manque d'argent. Gloire à Dieu, on a ce qu'il faut en fonction de nos besoins. Mais nos besoins n'ont rien à voir avec la vision qu'on a. Nos besoins n'ont rien à voir avec l'influence qu'on doit avoir dans cette ville, dans notre région, dans notre pays. Mais c'est pas tellement... C'est le cœur de Dieu qu'il faut que vous entendiez ce soir. Hein. Il faut que vous entendiez le message de l'Éternel. Il faut que vous entendiez quelle est la voix du Saint-Esprit qui vient jusqu'à nous, qui nous inspire et qui dit « Pensez plus haut !» Pensez plus haut! Au lieu de voir les choses à la manière terrestre. Parce qu'en attendant, le temps, il est en train de nous passer entre les mains. Et honnêtement, en tant que pasteur, il y a des choses, j'ai pas envie de les faire quand j'aurai 92 ans. C'est ce que je veux dire. Vous savez pourquoi? Ça y est, certains ont capté. Allez, 1 Timothée chapitre 6, verset 17, il est dit « Recommande aux riches du siècle présent ». Alors, les « recommande », c'est pas une option, ça n'est pas non plus négociable, c'est un ordre. Paul dit à Timothée, c'est un ordre que tu dois donner aux riches, mais ici, c'est riche juste dans le style multimillionnaire, hein. C'est pas la personne qui gagne, bon, on pourrait dire 10 000 euros par mois, et c'est pas de cette personne, c'est le multimillionnaire. De ne pas être orgueilleux, de ne pas être plein de lui-même, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, parce que il y a surtout beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle les nouveaux riches, c'est-à-dire des gens qui sont devenus riches comme ça, sans transition. Et l'argent leur est carrément, quand ils ont eu autant d'argent dans les mains, ça leur est monté à la tête. Et ils commencent à mettre leur espérance dans des richesses, la Bible dit, incertaines. L'argent est une richesse qui va, qui vient. La bourse demain change, je peux te garantir que c'est plus que de l'incertitude. Le prix du pétrole qui monte, qui descend, qui joue le yo-yo, c'est plus que de l'incertitude. Le marché immobilier qui peut changer d'un jour à l'autre avec un tremblement de terre, c'est plus que de l'incertitude. Et le Seigneur dit, quand tu arrives au stade où tu as beaucoup d'argent, ne permets jamais à cela de monter à la tête au point que tu, au lieu de mettre ton espérance en Dieu, tu la mets dans ces billets, dans ces espèces sonnantes et trébuchantes. Ensuite, mais de la mettre en Dieu qui donne tout, tout, un yacht, deux yachts, il s'en moque le Seigneur, avec abondance pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité et de la générosité, et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor par rapport à celui de Jacques qui est rouillé pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Ici, le Seigneur dit qu'il fasse le bien. Et l'idée ici, quand j'ai relu le commentaire de Rick Renner là-dessus, l'idée c'est qu'il fasse le bien, mais activement, qu'il s'engage activement, qu'il soit déterminé à faire le bien. Ensuite, qu'il soit riche en bonnes œuvres. Parce que c'est pas seulement le fait d'être riche en argent qui impressionne. C'est le fait d'être aussi riche en bonnes œuvres. Qu'il fasse preuve de libéralité. L'idée, c'est qu'il soit disposé à distribuer. Et c'est même plus précis que cela. Il s'agit de quelqu'un qui est complètement euphorique à l'idée de donner. Vous imaginez ça? On va se faire la tête quand le panier des offrandes passe. On va construire un orphelinat et on entend des gens « Waouh ! Je le savais bien ! C'est pour ça que j'ai eu ce dernier million d'euros là que j'attendais pas. Waouh ! Elle est bonne, amenez le panier ici. » Des gens pliés en deux à l'idée qu'on va ajouter 15 personnes sur j'ai le mot qui vient en anglais là, pour le salaire, 15 employés en plus. Ils sont euphoriques. Moi je vous dis, ceux qui sont loin pour gagner de l'argent, ils pensent pas comme les autres. Ceux qui sont pas loin et qui marchent dans la chair, parce que ceux qui vivent dans l'esprit, c'est autre chose. Eux, c'est le panier des offrandes arrive, un projet. Pfff, encore. D'abord, le pasteur. Moi je trouve que le pasteur s'habille un peu trop beaucoup plus mieux. Et j'ai des soupçons. Le panier des offrandes qui arrive. Oh là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Waouh. Allez, j'y vais, hein, maintenant. Et discrètement, quand je reviens, parce qu'avec un peu de bol, il y aura 3 personnes devant la porte avant que je puisse rentrer, les offrandes sont passées. Quelqu'un qui est loin pour donner, il est euphorique. Et il met ses biens à la disposition. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dépouiller. Et enfin, il dit qu'il fasse preuve de générosité. Et ici, c'est l'idée de quelqu'un qui est un champion pour partager ses biens. Et c'est vrai, je connais différentes sortes de riches. J'en ai connu qui ont vécu comme des pauvres. C'est-à-dire, l'argent est venu et ils ne se sont jamais habitués à donner. Résultat, ils ont pensé à amasser, c'est bon Brigitte, c'est bon. Amasser au point d'avoir peur de dépenser. Et en allant les voir, on va chez eux, on dit, oh, waouh, mais c'est terrible. Certains sont presque dans le manque. D'autres ont vécu dans le luxe. Et vous savez, l'argent n'est qu'un révélateur. C'est tout. L'argent, c'est rien. L'argent n'est qu'un révélateur. Parce que celui qui est égoïste, il achète plus pour lui. Celui qui est généreux, il donne plus aux autres. Celui qui a envie de mener une vie sanctifiée devant Dieu, il va utiliser son argent pour financer le programme de Dieu. Celui qui est charnel, eh ben, au lieu de promener sa petite copine dans une deux chevaux de la Seconde Guerre mondiale, qui a plus que trois roues d'ailleurs en bon état, eh ben, il va la promener dans une Jag. C'est la seule différence. Au lieu d'aller dans un petit motel, au coin, dans le meilleur, dans le plus bas quartier de la ville, il va l'amener dans un 4 étoiles aux Bahamas. C'est la seule différence. L'argent n'est qu'un révélateur. Donc, entraînons-nous pendant que peut-être on a peu à bien le gérer. Parce qu'une fois qu'on en a beaucoup, le réflexe est acquis. La seule différence, c'est qu'il est dit que quand ceux qui ont beaucoup d'argent font leur part, suivent l'Esprit de Dieu, guide. Hein. Il n'y a pas d'obligation, la dîme, c'est la dîme, et encore même la dîme, aucun être humain ne peut vous forcer à la donner. Et les offrandes, c'est sous l'inspiration. On va soutenir des œuvres, on va avancer dans des projets sous l'inspiration du royaume de Dieu. Eh bien, la Bible nous dit que quand les personnes qui sont ouintes pour recevoir et pour donner, c'est-à-dire avec une grande amplitude, le fond, la Bible dit que leur argent continue à produire parce qu'au ciel, ils s'amassent un beau et solide trésor pour la vie. Waouh ! Les amis, on ne peut pas être en retard dans le plan de Dieu. On ne peut pas être en retard. Et la Bible nous dit que l'année 2005, oh non, pas la Bible, les prophéties nous ont dit l'année 2005 serait une année de jugement. Mais la fin de l'année 2005 serait glorieuse. L'année 2006, le prophète n'avait même plus de mots pour expliquer la gloire. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a la gloire, l'argent va avec. Ma question est quand l'argent vient, quand tout le Seigneur nous donne les désirs de notre cœur, parce qu'on l'a servi, on a été fidèle, et le temps des récompenses arrive, ma question est qu'est-ce qu'on va en faire? Et encore une fois, prions pour qu'il y ait des hommes et des femmes d'affaires qui viennent dans cette église, qui ont un même cœur que nous, et qui disent, moi je suis fait pour donner ici, je suis fait pour les aider. J'aime leur vision, j'aime ce qu'ils prêchent, j'aime leur consécration, et ici je veux investir.
Nous espérons que ce message vous a plu, et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com, sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.